Donc nous allons reprendre, nous en étions arrêtés à la Matson Kappa. J'ai pas dit grand chose sur la Matson Kappa, mais je vais en dire un peu plus quand même avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que la Matson Kappa, sans lui, on ne serait peut-être pas là, ça c'est sûr, sûrement pas d'ailleurs, et il a permis à de nombreux maîtres justement de réaliser la vacuité en suivant sa méthode, cette méthode particulière qu'on va essayer d'appliquer. Méthode qui ne convient peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas qui a fait ses preuves. Donc quand la Matson Kappa a étudié en fait tous les maîtres de l'Inde, l'Inde ancienne. Et leurs enseignements, il les a aussi classés. Mais lui, il les a, suivant la manière dont ils interprétaient Nagarjuna. Parce que bon, il savait que c'était Nagarjuna qui avait la meilleure compréhension de la vacuité. Donc après, comme n'ayant pas accès à Nagarjuna, mais ayant accès à toutes les interprétations, il a regardé ces interprétations et il les a catégorisées. Il les a classées, en quelque sorte. Et il a fait deux grandes catégories. On parle de la voie médiane. La voie médiane étant la voie qui... Les Nagarjuna sont traités, ça s'appelle les stances fondamentales de la voie médiane. C'est-à-dire le Madhyamika, le Madhyamaka. Madhyamika, c'est les gens qui le pratiquent, et Madhyamaka, c'est la voie. La voie du milieu, comme on dit, ou la voie médiane, comme vous préférez, qui est entre les deux extrêmes. Donc ce qui est important, justement, c'était trouver cette voie juste, cette voie médiane, qui est entre les deux extrêmes, qui empêche de tomber dans un extrême d'éternalisme ou dans un extrême du nihilisme. Et donc cette voie, il faut la trouver, il faut pas se tromper. Donc il est important, justement, de prendre les bonnes interprétations. Si vous passez des années à étudier quelqu'un, un maître qui n'a pas une interprétation correcte, vous avez perdu 20 ans. Donc c'est important que, dès le départ, il analyse les différentes interprétations qu'avaient ces maîtres indiens pour voir lesquelles correspondaient mieux à la pensée de Nagarjuna. Et là, bien sûr, Manjushri était là pour lui donner de l'aide. Donc, il a classé, en fait, le Madhyamaka en deux sous-écoles. Et vous allez en entendre parler quand vous allez continuer à étudier la vacuité. Une école qu'on appelle, bon, en sanskrit, Svatantrika, ça veut dire autonome, Svatantrika. Et l'autre qui s'appelle Prasangika, c'est surtout celle-ci qui va nous occuper. C'est cette vue que la Matson Kappa va expliquer et qu'on va étudier. Et Prasangika, ça veut dire conséquentialiste. Donc d'un côté, les autonomistes, et de l'autre côté, les conséquentialistes. Prasangika. Svatantrika, Prasangika. Autonomiste, conséquentialiste. Mais tout ça, c'est la voie médiane. Donc les deux font partie de la voie médiane. Ce ne sont pas des écoles encore inférieures. Il y a d'autres écoles qui sont en dessous de la voie médiane, mais ça, on va pas s'en occuper. C'est pas le but de ce week-end, de regarder toutes les écoles philosophiques. On va simplement rester dans la voie médiane. Et surtout dans la voie prasangika, la voie des conséquentialistes. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle, pourquoi est-ce que Matson Kappa les a appelés autonomistes ou conséquentialistes? C'est parce que les svatantrika, les autonomistes, pour prouver la vacuité, ils vont utiliser des raisonnements, des syllogismes, hein, un syllogisme qui est une formule logique. Vous savez, les syllogismes, ça existe, c'est Aristote, je crois, ou c'est Platon, qui dit « tous les hommes sont mortels », c'est Socrate, hein, « tous les hommes sont mortels, Platon est un homme, donc Platon est mortel ». Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, mais il y a les syllogismes indiens qui sont un petit peu plus compliqués, comme la musique, il s'appuie là-dessus, les svatantrika s'appuient sur des raisonnements autonomes, hein, pour autonomes, c'est-à-dire comme un syllogisme, pour prouver la vacuité. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire de la logique à ce moment-là pour prouver la vacuité, de rentrer dans des systèmes de logique assez compliqués, hein, et des raisonnements avec un sujet, un prédicat, une raison, tout ça, qui sont en fait des éléments qui marchent bien pour les logiciens, Mais pour commun des mortels, si vous n'êtes pas logicien, c'est pas évident, quoi, de les manier. Pour les logiciens, c'est très bien, ils arrivent très bien à comprendre comment réfuter les autres écoles, etc. Et donc, c'est un très très bon outil quand on le maîtrise. Hein. Et donc c'est Svatantrika utilise donc le syllogisme pour amener à la compréhension de la vacuité, en réfutant tout ce qui n'est toutes les conceptions erronées, hein, toutes les croyances erronées. Et pour Navasankhapa nous dit que le champion, en fait, le maître de cette école, c'était Bhava Viveka. Hein, Bhava Viveka. C'était le représentant de cette école autonomiste, hein, Bhava Viveka. Et pour l'école des Prasangika, oui, donc Prasangika, pourquoi Prasangika? Parce qu'ils utilisent des conséquences. On les appelle conséquentialistes parce que leur argument, c'est une simple conséquence. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans les syllogismes. Si vous dites ça, alors il en découle que. Hein, si vous pensez ça, alors ça amène tel résultat, ça amène telle conséquence. Et donc c'est beaucoup plus accessible pour nous, pour quelqu'un qui n'est pas un logicien, de passer par des conséquences. On voit tout de suite si c'est juste ou si c'est faux. Hein, on n'a pas besoin de manier la logique. Et donc, pour Tsongkhapa, il dit que le principal, le maître, le champion des Prasangikas, c'était Chandrakirti. Donc, Tsongkhapa a été un grand, grand, grand défenseur de Chandrakirti et non de Bhava Viveka. Chandrakirti est postérieur, hein, à Bhava Viveka. C'est-à-dire quand Chandrakirti a écrit son traité sur les stances de la voie médiane, Bhava Viveka était déjà décédé. Donc il n'a pas pu débattre avec lui pour savoir quelle interprétation était la meilleure. Bhava Viveka n'a pas pu se défendre contre Chandrakirti. En tout cas, c'est l'école donc Prasangika qui a la vision la plus Tsongkhapa, la vue juste et qui a compris le point le plus subtil de la vacuité. Hein. Donc c'est important de trouver ce point subtil parce que pourquoi est-ce qu'on veut réaliser la vacuité? Pour éliminer l'ignorance, hein. L'ignorance fondamentale qui est en nous depuis des temps sans commencement, hein, quand même, qui est pas là depuis que nous sommes nés. Qui est là depuis des vies et des vies. Cette ignorance fondamentale que l'on transporte avec nous, comme ça, de vie en vie. Donc il est important de trouver le point crucial qui va mettre en pièce cette ignorance. Si on ne trouve pas le point crucial, le point le plus subtil, l'ignorance, elle n'est pas touchée. Elle reste. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tous ces débats entre les écoles. C'est pas pour faire de la polémique, hein, c'est pas pour débattre entre eux, pour s'amuser, ou pour faire des jeux de joutes verbales. C'était pour voir quel maître avait touché le point principal, le point essentiel. Donc, Tsongkhapa, c'est ce qui l'intéressait. Il a été vraiment le défenseur de Chandrakirti, parce qu'il a vu que Chandrakirti avait profondément compris la pensée de Nagarjuna, qui lui-même avait compris la pensée du Bouddha. Et donc, il ne fallait pas s'égarer dans d'autres écoles, ce n'était pas la peine. Il fallait aller directement dans la méthode des conséquentialistes. Donc, d'après Tsongkhapa, c'est l'interprétation Prasangika qui est la seule interprétation juste qui va nous permettre de réaliser la vacuité. Hein? Donc, ici, on va directement au but. Hein? Vous êtes bien tombés parce qu'on ne va pas étudier toutes les écoles ce week-end. On va étudier celles qui nous mènent droit au but. Hein? Les écoles, après, les autres écoles, hindouistes, bouddhistes, réalistes, etc., vous pouvez les étudier si ça vous fait plaisir. C'est bien parce que c'est toute une gradation. Ça permet d'évoluer progressivement vers la vue ultime, mais nous, on va aller directement donc, vers cette vue-là, comme nous l'indique Lama Tsongkhapa. Donc, cette interprétation des Prasangika est l'interprétation la plus radicale. Hein. C'est pas la plus facile, hein, puisque c'est la plus subtile. Hein. C'est pas la plus facile à comprendre, ça c'est sûr. Mais c'est l'interprétation la plus radicale. Pourquoi radicale? Parce qu'elle ne fait aucun compromis. Aucun compromis. Elle déconstruit tout. Toutes les autres écoles laissent encore une idée, un peu un compromis, qu'il y a quelque chose de réel avec les Prasangika, il n'y a plus rien de réel. Le réel, il part en morceaux. Mais pas n'importe quel réel. Le réel auquel on croit, ce que nous, nous prenons pour réel. On comprend la réalité en éliminant une vision réaliste des choses telles qu'elles nous apparaissent. Donc il y a un point donc, ici qui est important. Donc cette interprétation de Nagarjuna est une interprétation radicale qui mène le pratiquant directement à toucher le point juste. Donc c'est très important justement parce qu'en fait cette vision, cette interprétation, comment dire, des prasangikas, des conséquentialistes, elle n'affirme jamais rien. Rien n'est affirmé, tout est nié. C'est pour ça que je dis qu'elle est radicale et qu'elle ne laisse aucun compromis. Toutes les autres vont affirmer un point subtil où il existe encore quelque chose de réel, de trouvable quand on l'analyse. Avec les Madhyamika, Prasangika, vous n'allez rien trouver de réel quand vous analysez avec une analyse ultime. Tout ce qu'on fait, c'est une analyse ultime. C'est pas une analyse conventionnelle. Ce sont des analyses ultimes qui recherchent le je, par exemple. La recherche du je, du moi. Puisque c'est notre réalité fondamentale à laquelle on est complètement accro. Comme un junkie, un petit peu. C'est la cause même de notre ignorance et de notre souffrance, cette idée du moi, cette idée du je. Et ça, on veut, c'est très difficile pour nous de la lâcher. On veut bien la lâcher, mais quand on la lâche, c'est comme quand on est suspendu à un arbre, on essaye de rattraper la branche d'en dessous pour se cramponner. Et donc toutes les autres écoles philosophiques offrent des branches en dessous pour pouvoir se cramponner avec une petite... idée où il y a encore quelque chose de réel. Avec les prasangika, il n'y a plus de branches. Vous lâchez. Et c'est fini. Vous réalisez la vacuité. Mais vous n'avez pas, vous ne pouvez plus vous raccrocher. Ils ne vous font pas croire que vous allez trouver une branche qui est réelle et qui va vous permettre de vous cramponner. Ça, avec eux, c'est impossible. Et donc, c'est ça la vue du Bouddha, c'est ça la vue de Nagarjuna, c'est ça la vue de Chandrakirti, et c'est ça la vue de Tsongkhapa. Et c'est cette vue qui est expliquée dans l'école Gelugpa et qui est très utile justement pour arriver. Alors bien sûr, bon, c'est une compréhension progressive. Sauf si vous avez un karma extrêmement fabuleux ou tout. Pendant vos vies antérieures, vous avez étudié la vacuité, vous l'avez peut-être presque réalisé. Et là, il suffirait qu'un maître vous donne une phrase ou ça et vous réalisez directement. Pour des gens comme moi, c'est beaucoup plus difficile. Il faut que j'étudie, ça prend du temps, les raisonnements, tout ça, il faut les mettre en place. C'est une méthode très progressive, donc, parce qu'on a du mal à lâcher cette idée du moi, cette idée du je. Même si c'est la racine de la souffrance. Toutes nos souffrances qui sont, on va dire... inutiles, toutes les souffrances qu'on a sont complètement inutiles, elles viennent de quoi ? D'un seul fait, nous ne savons pas qui nous sommes. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes que nous souffrons. À partir du moment où vous avez compris qui vous êtes, il n'y a plus de souffrance. Quand vous avez réalisé la véritable existence du jeu, comment le jeu existe vraiment, vous n'avez plus, ça élimine toutes les souffrances. Et donc c'est pour ça, quand on parle de libération du samsara, on se libère du samsara, on se libère de la souffrance en réalisant la vacuité, en réalisant la vacuité du jeu. Donc cette vacuité du jeu, elle porte sur deux choses. Elle porte sur moi, sur le moi, sur le jeu, et elle porte sur tous les phénomènes aussi. Il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que moi, il y a tout le reste, il y a moi et le reste. Et donc, il faut l'appliquer, ces raisonnements, il faut les appliquer, non seulement à soi-même, mais aussi à les appliquer à tous les phénomènes. Et c'est là où le grand véhicule donc, est plus vaste, disons, parce que justement, il propose donc, des méditations sur la vacuité des phénomènes. Mais pour pouvoir bien comprendre la vacuité des phénomènes, il faut déjà analyser le phénomène qui est le plus présent en nous, qui se cache en nous, qui est le plus proche de nous, et c'est le je, c'est le moi. Donc toutes les méditations vont prendre le moi comme, euh, comme point de départ dans ce domaine, pour justement éliminer cette ignorance qui nous fait concevoir que le jeu existe tel que nous le percevons. On a tous une idée du jeu. C'est ça qui va être intéressant de regarder dans la méditation, comment on appréhende le jeu. Ça, c'est la première étape. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on appréhende un jeu ? On a tous une appréhension d'un jeu. Tous. Après, nos souffrances, elles vont venir du fait de la façon dont nous nous identifions à ce jeu. Plus notre identification au jeu va être forte, plus on va avoir des perturbations mentales, plus on va souffrir. Forcément. Les causes, on a vu dans le samsara, dans le module sur le samsara, les causes de la souffrance, c'est le... Les causes de la souffrance, c'est quoi déjà ? C'est le jeu. C'est le karma et les perturbations mentales. Les perturbations, à cause des perturbations mentales, on crée du karma. Et à cause du karma, eh bien, on reste dans l'existence cyclique. Quelles sont les perturbations mentales principales, racines fondamentales ? L'ignorance, l'attachement, la colère, la jalousie, l'orgueil. Et ensuite, il y en a cinq autres. Les vues fausses. Les vues fausses. Qui sont justement le fait, la première, de considérer qu'il y a un jeu qui existe véritablement dans les agrégats. Qu'est-ce que c'est les agrégats ? Quand on parle des agrégats. En gros, il y en a deux. Enfin, il y en a cinq, mais on pourrait les scinder en deux. Le corps et l'esprit. Dans la forme, on va discriminer. C'est ce que nous a indiqué le Sutra du cœur, quand on réfute donc la forme, il n'y a pas de forme qui existe intrinsèquement, la forme est vide. La discrimination, les perceptions, les facteurs composés et la conscience. Donc tout ça, c'est l'esprit en fait. Donc il y a cinq agrégats. Un, c'est la forme, c'est-à-dire notre corps. Et l'autre, c'est tout ce qu'il y a dans notre tête, dans notre cerveau, dans nos pensées, dans notre esprit. Et tout ça, c'est classé. Donc quand on va parler des cinq agrégats, si vous n'avez pas les bases pour savoir exactement ce que les cinq agrégats, ce n'est pas grave. Pensez que c'est juste le complexe corps-esprit. Le groupe corps-esprit. Donc c'est ça qui va être le lieu principal où on doit rechercher le jeu. Donc les perturbations mentales découlent justement de toute cette identification à un jeu, à un moi, qui semble exister tel qu'il nous apparaît. D'accord ? À cause de cette identification, plus on s'identifie à ce jeu, plus on a cette importance un peu exagérée de soi-même. Quelqu'un qui n'a pas une grande identification au jeu, bon, il y aura pas vraiment, il y aura moins de souffrance, forcément. Il y aura moins de perturbations mentales. Alors, toutes nos perturbations mentales viennent de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que oui, mais pourquoi ? Il faudrait le montrer maintenant. Pourquoi les perturbations mentales viennent de l'identification au jeu ? On va en prendre deux principales. On va prendre la colère ou l'aversion, la haine. Pourquoi l'aversion vient la colère vient d'une grosse interprétation du jeu, d'une forte identification au jeu. Tu veux prendre le micro, s'il te plaît, parce que sur Zoom, il y a les gens qui entendent. Ils doivent t'entendre aussi. Voilà, merci. Merci.
Oui, donc, c'était par rapport à quelle perturbation, là, déjà là ?
On parlait de la colère.
La colère.
La colère.
Oui, eh ben, tout est lié d'une certaine manière à nous, à notre rapport au monde. Donc si on est en colère, c'est parce qu'on a un souci à l'intérieur de nous, où on se sent en décalage, ou du moins avoir un manque par rapport à quelque chose, donc éprouver de la colère, ou une incompréhension peut-être, je me dis.
Compréhension.
Une incompréhension par rapport à un sujet, donc ça nous met en colère.
Oui, oui, bien sûr. Il y a plein de facteurs différents qui peuvent amener de la colère. Donc au moment où la colère surgit, en général, c'est parce qu'il y a le moi qui est là qui apparaît, il y a un moi qui apparaît, très, très fort, très puissant, qui se sent attaqué, ou qui se sent incompris, hein, ou qui se sent manipulé, ou quoi que ce soit. Et cette identification au jeu va créer une impulsion mentale qui va peut-être se traduire aussi par des mots agressifs, ou des paroles agressives, ou des actes carrément agressifs. Donc, plus on va s'identifier au jeu, et plus la colère va être forte, en général. Donc ça, un moment de colère, c'est un moment intéressant, par exemple, pour voir comment le jeu apparaît en nous, comment ce jeu se manifeste, quelle est sa... en quoi il consiste exactement, comment il est fait, ce jeu. Puisque c'est ça qu'on veut défendre. Hein. On passe toute notre vie soit à défendre quelque chose, soit à vouloir quelque chose. Hein. Ce sont nos deux perturbations. L'autre perturbation principale, c'est l'attachement. L'attachement qui veut obtenir quelque chose ou qui ne veut pas perdre quelque chose qu'on a déjà, et donc qui est fortement attaché aussi à l'idée d'un moi, d'un jeu. Hein. C'est quelque chose qui nous procure un certain plaisir, un certain bien-être, et on pense... par ignorance, que si on n'a pas cette chose ou cette personne, on va être malheureux. Et que la fonction de cette chose ou cette personne, c'est de nous procurer un bonheur constant, un bonheur immédiat et un bonheur constant. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va rencontrer cet individu ou cette chose ou cette personne, on va se sentir heureux. Mais en fait, et donc c'est lié au fait de vouloir donner à ce jeu, à ce moi qui nous apparaît, le plus de confort, le plus de satisfaction, le plus de plaisir possible, en lien avec un objet extérieur, hein, qui est vu par le filtre de l'ignorance comme étant une source inconditionnelle de bonheur, exagérée bien sûr, hein. Comme la colère est vue comme une source inconditionnelle de souffrance, parce que l'autre nous fait souffrir, parce qu'on lui reproche plein de choses, des défauts qui sont aussi exagérés, l'attachement fait exactement la même chose. Elle impose sur l'autre personne des sentiments complètement exagérés, que cette personne nous est indispensable à notre survie, pratiquement, à notre survie affective ou émotionnelle, que sans elle, ça va être la catastrophe. Et donc, il y a une idée, là aussi, d'existence intrinsèque. Hein. Une idée de cette personne qui nous fait du mal, ou qui est notre ennemi à ce moment-là, parce qu'elle nous a prononcé des paroles déplaisantes, elle est intrinsèquement un ennemi. Hein. C'est un ennemi qui existe de par lui-même. Il y a tout de suite une étiquette ennemie sur cette personne, quelqu'un qu'il faut éviter. Et l'attachement, l'ami, c'est exactement l'inverse. Il y a une étiquette de intrinsèquement ami qui existe, parce que cette personne, on ne peut pas la voir comme autre chose qu'un ami. Et c'est là où on se trompe, parce qu'on a bien vu que les ennemis pouvaient devenir des amis, que les amis pouvaient devenir des ennemis, que tout ça, ça change complètement, qu'il n'y a absolument rien de fixe, absolument rien, aucune existence intrinsèque dans quelque phénomène que ce soit, ni dans le jeu qui impute ces émotions sur l'autre, ni dans la personne elle-même. Il n'y a rien qui puisse nous... Il n'y a pas une chose en soi qui pourrait nous procurer un bonheur à tout jamais. Hein. Le meilleur ami ne nous fait pas toujours plaisir. Hein. Un lieu merveilleux n'est pas toujours un lieu merveilleux. Il peut y avoir des... cause et de condition, ce lieu qui a été merveilleux à une époque peut très bien se transformer. Cette personne qui était merveilleuse à une époque peut très bien aussi changer. Donc, les meilleurs amis ne nous font pas toujours plaisir. Les lieux paradisiaques ne sont pas toujours des lieux paradisiaques. Tout ça, c'est imputé par une volonté de mettre une existence réelle, intrinsèque, sur un phénomène. Ça, c'est la définition de l'ignorance. L'ignorance, dans le bouddhisme, c'est pas simplement le fait de ne pas savoir quelque chose. Par exemple, là, je sais pas à quelle heure arrive le prochain train de Toulouse. Hein. C'est une ignorance, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas le fait simplement de ne pas savoir à quelle heure arrive le prochain train de Toulouse. dans le bouddhisme. C'est une ignorance beaucoup plus active que ça. C'est une ignorance qui, chaque fois, impose une existence véritable. Une existence véritable, ça veut dire quoi, une existence véritable? Je le dis. C'est une existence véritable ou une existence intrinsèque? Je vais utiliser des mots comme ça parce que c'est un peu, c'est ce qu'on utilise justement chez les Madhyamika, qui ont le même sens. Une existence véritable, une existence intrinsèque, une existence inhérente, une existence de par son propre côté, par elle-même, hein, une existence par nature, une existence par sa propre nature. Hein, c'est-à-dire comme si la chose en question, elle existait d'elle-même. Quand je vois mon iPad, j'ai l'impression qu'il existe de lui-même. Quand je vois le micro, j'ai l'impression qu'il existe de lui-même. Quand je vois Tsanka au fond de la salle, j'ai l'impression qu'elle existe d'elle-même. Elle n'est pas... Que mon esprit n'a rien à voir là-dedans. Hein, que l'objet, la personne, pardon, vient à moi. Elle est là-bas. Et moi, je suis là. Et mon esprit n'a rien à faire là-dedans. Ce n'est pas mon esprit qui fait exister Tsanka. Hein. Ce n'est pas mon esprit qui a fait exister le micro. Le micro, il est bien là. Il existe sans moi. Hein. Je quitte la pièce, le micro est toujours là. Le micro est toujours là quand je quitte la pièce ou il n'est pas là? On ne sait rien. On ne sait pas. Allez savoir si le micro est toujours là quand je quitte la pièce, je ne sais pas. Mais non, pour nous, ce n'est pas comme ça que ça apparaît. Un phénomène, il apparaît tel quel. Il apparaît indépendamment. Hein, ça aussi encore. De manière autonome, comme s'il était créé par sa propre... Comment on pourrait dire? Sa propre essence, hein. Qu'il y avait une essence en lui, en ce phénomène, en cette personne, qui l'a fait exister. Hein, c'est un peu ça, quand même, qui se passe quand on voit un phénomène extérieur. Et ben, le moi, c'est pareil. Quand on pense au moi, ben, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à l'existence dans des situations un peu compliquées, comme par exemple quand on a quelqu'un qui nous insulte, ou quand quelqu'un nous fait peur, ou quand on est très attaché à quelqu'un, qu'on a un grand plaisir. Dans les situations émotionnelles très fortes, il y a ce « je » émotionnel, hein, on va dire, qui est là, qui apparaît, et qui semble exister de par lui-même, qui semble exister tout seul. Mm-hmm. Tu vas prendre le micro, là.
Merci. Est-ce que ça veut dire que, parce que si on est dans l'amour de tous, autant des personnes qui nous font du mal que des personnes qui peuvent nous faire du bien, et qu'on est dans la vacuité, forcément on ne ressentira pas de peine. Mm-hmm. Même si, admettons, donc on aime, ça veut dire qu'une personne qui aime en totalité, elle ne ressentira pas malgré tout de peine si elle perd
grâce à l'amour, grâce au son sentiment d'amour va l'empêcher de ressentir toute forme de peine si cette personne disparaît, par exemple, si cette personne n'est plus là,
hein? D'accord.
Mm-hmm. C'est ça que ça veut dire, la question?
Oui.
Bah oui, l'amour, c'est un bon exemple, oui, pour le vrai amour, l'amour au sens sans attachement, hein, faut pas confondre les deux, hein. Mm-hmm. L'attachement, c'est pour soi, l'amour, c'est pour l'autre, hein, en général, c'est pas pareil, hein. Donc le véritable amour, finalement, c'est ça, c'est une diminution du moi. Le moi disparaît dans un véritable amour. On est plus intéressé par l'autre personne que par soi-même. Donc c'est une démarche, effectivement, qui amène à la vacuité. Et si on allie les deux, le fait de la vacuité et l'amour pour les êtres, eh bien voilà, c'est l'état de Bouddha. Tout simplement. Mais... Bon. Allez, je sens que ça y est. On est parti dans le... Ça vient, ça fait du bien. Moi, je croyais que vous dormiez. Je vois que vous vous réveillez. J'ai pu trouver les belles phrases, de bonnes phrases. Bon, allez, oui. À toi, Marc.
Oui, ma question est la vacuité, est-ce que c'est l'esprit qui fait l'expérience de la vacuité? Qui c'est qui fait l'expérience de la vacuité?
Alors, c'est forcément. Qu'est-ce que c'est, ça ramène à dire qu'est-ce que c'est que la sagesse, hein, finalement. C'est dans l'esprit que la sagesse va se développer et c'est dans l'esprit que l'ignorance va disparaître. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on voit... C'est l'esprit qui est un peu le créateur de nos souffrances. Non ? s'identifiant.
Pas l'esprit. L'esprit, lui, il est pur. La nature du Bouddha.
Tu parles de la nature de l'esprit.
C'est la même chose, de nature du Bouddha et esprit.
Oui, oui, si tu veux. Nature de l'esprit.
Oui, oui, oui. Là, bon. Donc, l'esprit par lui-même, il n'est pas.
Naturellement pur. Voilà. Oui, si on y a accès à cette pureté naturelle. Quand vous réalisez la vacuité, vous avez forcément accès à la pureté naturelle de votre esprit. Ça, c'est sûr. Mais tant que vous n'avez pas réalisé la vacuité.
Oui. Mais alors, oui, la question.
Alors, c'est une méthode, effectivement, de méditer sur la vacuité par la nature de l'esprit. C'est pas la méthode qu'utilise Tsongkhapa, ici. C'est pas celle-ci. La méthode qu'utilise Tsongkhapa, c'est justement essayer de trouver ce je, cette identité qui existerait, soi-disant, par elle-même, et à laquelle on croit. C'est ça la méthode de Tsongkhapa. Des Chandrakirti et de Nagarjuna. C'est pas de regarder la nature de l'esprit. D'autres maîtres proposent ça, bien sûr. C'est parfait. C'est très bien. Mais bon, c'est pas ça qu'on fait ce week-end.
Mais
qui réalise la vacuité? C'est l'esprit, bien sûr.
C'est l'esprit.
Ah oui. C'est l'esprit, bien sûr. Ça ne peut pas être le corps. Non, mais... C'est le corps ou l'esprit, hein? Il y a deux choses.
Non, mais il y a le corps, l'esprit, puis il y a le mental, notre cinéma,
oui,
tout ça.
Mental,
tout dire.
Oui, oui, tout ça.
Ça compte.
Mais c'est quoi l'esprit?
Ah, ça, voilà, oui, bien sûr. C'est tout à fait autre chose de l'esprit. L'esprit, je pense.
Est-ce qu'il existe, l'esprit?
C'est-à-dire, on présente l'être humain comme un ensemble corps-esprit. Moi, j'ai envie de rajouter le mental, le l'ego, tout notre cinéma.
Voilà, là, tout ça. Ça, c'est où, ça? Ça existe, ça?
D'une certaine manière, oui.
Oui, ça existe.
Oui, ça existe, oui, puisqu'on vit avec. Tous les jours, on fait l'expérience, du matin au soir. C'est la, à mon avis, c'est l'une des troisièmes composantes qui fait qu'on fonctionne d'une certaine façon.
Conventionnellement, ça existe, tout à fait. Tout à fait. Oui.
Oui. On m'entend, question. Mais oui. C'est pas bon.
Attendez, juste une question sur Zoom, sinon ils vont se sentir un petit peu oubliés. Alors, oui, sur Zoom, il y a une question. C'était quoi?
Bonjour Christian, bonjour tout le monde. Quand on dit c'est bonjour. L'esprit qui réalise la vacuité, la question qui me vient, c'est celle-là. Est-ce qu'on n'accorde pas une existence réelle à l'esprit? Au moment où on dit...
Quand vous réalisez la vacuité, non. Quand vous réalisez la vacuité, vous n'accordez plus une expérience, une existence intrinsèque à l'esprit. Sinon, vous ne réalisez pas la vacuité. Dès l'instant où vous réifiez quelque chose... Réifier, c'est un autre terme aussi. Réifier, c'est donner une réalité à quelque chose. C'est donner une existence réelle à quelque chose.
Okay. Par rapport au mental...
Attends, pas tous à la fois, je vais être perdu sinon. Je réponds à Daniel, qui est sur Zoom. Donc c'est ça, hein. Si on accorde encore une existence intrinsèque à l'esprit, eh bien, on n'a pas vraiment réalisé le point subtil des prasangika. Hein, parce qu'on réifie l'esprit. C'est ce qu'on fait une école qui est en dessous des madhyamika, par exemple, Yogacitamatra, qui dit que les objets extérieurs n'existent pas. Ok, il n'y a rien à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, en fait, c'est une projection de l'esprit. Mais en disant ça, on donne une existence à l'esprit. Les prasangika ne vont pas réifier l'esprit non plus. Mais c'est ça. Et nous, on a toujours tendance, on a cette tendance innée, en fait, à vouloir réifier quelque chose. Et c'est ça l'ignorance. C'est ça notre ignorance. Donc quand on dit qu'est-ce qui réalise la vacuité, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est un esprit, facteur mental, qui discerne le bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est ça la sagesse. Donc cette sagesse, on peut l'appliquer à plein de choses. Là, il se trouve qu'on l'applique à la compréhension de la vacuité, mais on peut l'appliquer aussi. C'est une forme de discernement. Hein. On peut développer cette sagesse. Donc la sagesse de la vacuité, c'est développer la sagesse qui permet de discerner ce qui est juste et ce qui est faux. Ce qui existe et ce qui n'existe pas. Voilà. Donc, comme dit Lama Zopin, on croit, pour nous, ce qui n'existe pas existe, et ce qui existe n'existe pas. C'est ça l'ignorance. Mais...
Oui, du coup, moi, je voulais dire que c'était important, oui, de faire le discernement entre le mental, justement, et l'esprit saint, comme moi, je l'appelle.
L'esprit saint, c'est
l'esprit
quoi?
L'esprit saint qui va être, du coup, notre véritable nature, pour moi.
La nature de l'esprit. Voilà, on dit plutôt la nature de l'esprit, oui, voilà, dans le bouddhisme. Oui.
Qui est, du coup, pour moi, le mot qui me parle beaucoup, c'est l'observateur. Celui qui observe dans la neutralité les choses.
Et cet observateur, d'après toi, il a une existence véritable? Tu ne sais pas.
J'ai l'impression de l'expérimenter, en tout cas, de le sentir.
Ouais, exactement. Voilà. Donc, c'est ça, ça, c'est un très bon point de départ, justement. C'est ça qui permet, c'est le point de départ pour méditer sur la vacuité, de prendre conscience de ce « je » qui apparaît. Soit observateur, soit observé, peu importe. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que le « je » ? Ben, je vous propose, puisqu'on est là-dedans, hein, on va faire une petite méditation sur le « je », sur ce « je » qui apparaît. Donc, vous prenez une posture. Alors, oui, je voulais vous dire aussi que pour réaliser la vacuité, il y a... juste avant de faire la méditation, quand même. Comment est-ce qu'on va réaliser la vacuité ? Qu'est-ce qui va nous aider à réaliser la vacuité ? Oui. D'être en paix avec soi-même, ça c'est sûr. Pas facile. Quand on a des perturbations mentales, on n'est plus en paix avec soi-même, alors que, voilà. Donc déjà, la concentration, exactement, pour être en paix, pour être paisible. Hein. Plus on va développer la concentration, plus on va développer chiné, hein, le calme mental, plus ça sera facile de pénétrer la vacuité. Et le seul intérêt de développer le calme mental, pour nous, c'est pas d'être en paix et puis de planer, hein, c'est d'avoir cette quiétude mentale qui va nous permettre d'analyser la vacuité sans être perturbé par des tas de pensées. Donc, indispensable pour réaliser la vacuité, d'avoir réalisé le calme mental. Donc, un yogi qui médite sur la vacuité, c'est un yogi qui a réalisé le calme mental et qui amène sa réalisation du calme mental, qui s'appuie sur sa réalisation du calme mental pour réaliser la vacuité. Donc ça, c'est très important d'avoir... Donc plus vous allez méditer sur, disons, développer le calme mental, développer la concentration, plus vous allez être capable de discerner vraiment le mode d'être réel des choses. Mais ça va pas... c'est un aspect de la pratique. Il y a d'autres aspects de la pratique qui vont être très importants pour comprendre la vacuité. L'un, c'est d'accumuler des mérites, de faire des pratiques d'accumulation de mérite. Alors là, il y en a pléthore. Hein, il y a faire des offrandes de mandala, il y a aider les autres, il y a beaucoup de choses, aider son maître. Enfin, il y a plein de prières qu'on peut réciter pour accumuler du mérite. Et méditer sur la vacuité, c'est aussi une manière d'accumuler du mérite. Développer l'amour, la compassion, c'est une manière d'accumuler du mérite. Enfin, toutes ces méthodes-là. Et il y en a une troisième, c'est de purifier les actions négatives. Hein ? Donc concentration, accumulation de mérite, purifier les actions négatives. Qu'est-ce qui nous empêche de voir la réalité des phénomènes ? C'est nos voiles. Hein ? Et nos voiles, comment on va les éliminer ? Ben, par une purification, par des pratiques qui éliminent les voiles, justement, par la purification. De Vajrasattva, comme on fait tous les jours, normalement. La pratique de Vajrasattva qui élimine les voiles aussi bien émotionnels que les voiles cognitifs. Vous savez que pour devenir Bouddha, il faut éliminer les deux types de voiles. Éliminer le voile émotionnel, c'est-à-dire les perturbations mentales, et éliminer les voiles cognitifs qui sont plus de l'ordre de la connaissance. Donc c'est quand on a éliminé ces deux types de voiles que l'on est vraiment Bouddha. Et la réalisation de la vacuité élimine les voiles grossiers, bien sûr. Mais pas qu'encore les voiles très subtiles. Pour ça, il faut avancer sur la voie. Il faut continuer sur la voie. Et donc, voilà. Donc, ça, c'était pour ce qui va nous aider à réaliser la vacuité. Mais l'une des pratiques essentielles, c'est la concentration. Donc, on va commencer par s'asseoir, prendre une posture assez droite, on va dire. On fait la méditation, peut-être après la méditation, s'il y a d'autres questions. Hein ? D'accord ? Ok, merci. Donc, on se concentre, on prend une posture avec le dos droit, hein, la main droite dans la main gauche, si on peut. On baisse le regard vers le sol, la langue contre le palais, les épaules relâchées. Si on peut garder les yeux ouverts, ou mi-clos en tout cas, ça c'est bien, c'est bien. Et dans cette posture physique, donc on se concentre sur, par exemple, la respiration, dans un premier temps. Donc on essaye de vraiment être la respiration, ne faire qu'un avec la respiration. Ou, si on veut, on peut compter aussi les cycles respiratoires. Maintenant, vous êtes dans de la respiration, de la concentration, vous allez réfléchir à la manière dont le je vous apparaît. Le je auquel vous vous identifiez, comment est-ce que ce je vous apparaît? Comment ce je vous semble exister? Donc pour ça, vous pensez simplement « je ». Vous pensez à vous-même. Donc ne pensez pas au « je » en général. Hein. Ce n'est pas un « je » abstrait. C'est le « je » auquel on s'identifie. C'est-à-dire vous-même. Quand vous pensez « je », qu'est-ce qui vous apparaît? Donc si vous sentez qu'il y a un « je », qu'il y a un sujet qui médite, sentez qu'il y a un je qui existe quelque part, qui peut être trouvé. Un je réel. Concentrez-vous sur ce je qui vous apparaît, qui vous semble réel. En même temps, laissez une partie de votre esprit être consciente que de votre propre corps, de tout ce qui compose votre corps, la peau, la chair, les os, les côtes, tout en regardant le jeu. Essayez de penser notamment à la région thoracique, aux poumons, au cœur, là où on a l'impression que se trouve le jeu, quand on a une forte sensation. Donc il faut essayer vraiment de ressentir un je qui puisse être trouvé. Il ne faut pas se dire il n'existe pas ou autre chose. Il faut vraiment essayer de trouver ce je. De ressentir que ce je est réel. Qu'on peut le trouver. Qu'il est vraiment là, à l'intérieur de nous. Au fond de notre poitrine, quelque part. On essaye de le trouver peut-être entre le cou et le cœur. Comme s'il était dans l'obscurité un peu, dans l'ombre, qui se cachait, qui n'est pas très clair. Donc en cherchant le jeu, vous restez conscient donc de l'intérieur de votre corps. Il y a un aspect interne dans votre corps et c'est là où vous cherchez le jeu. Vous vraiment cherchez où il est, demandez-vous où est-il ce jeu ? Est-ce qu'il est dans les jambes ? Est-ce qu'il est dans les mains ? Et dans le cœur, dans le cerveau, dans le nez, dans les oreilles, dans la tête, où est-il ? Donc portez toute votre attention sur ce jeu, sur cette recherche du jeu. Donc, en gardant bien d'un côté de l'esprit le jeu qui vous apparaît exister, qui vous-même, et dans l'autre, votre corps. C'est d'avoir les deux choses en même temps dans l'esprit. Le jeu auquel on s'identifie et le corps qui est son lieu de résidence. Donc plus vous vous concentrez, plus vous voyez que ce jeu est introuvable. Qu'on n'arrive pas à le trouver. Ou qu'on cherche. Alors qu'au départ, il semblait bien exister. Il semblait bien qu'on puisse le trouver. Essayez de rester le plus longtemps possible dans cette constatation que le jeu est introuvable quand on l'analyse, quand on le cherche. « Ce jeu qui nous semble réel, on ne le trouve nulle part. Pourtant, il y a bien un jeu quand même. Il y a bien un jeu qui est assis, qui a mal aux jambes, qui veut sortir, qui veut dormir, qui veut manger, qui veut aller se promener, qui est malheureux. Qui aimerait bien manger quelque chose de bon. Il y a un jeu, mais ce jeu, il n'est pas là. En même temps. Donc, constatation, conclusion, parce qu'il faut arriver à une conclusion, que ce jeu qui semble exister par lui-même est une simple construction mentale. Quelque chose qui est fabriqué par notre esprit sur la base de notre corps et de notre esprit. Quelque chose qui est désigné, quelque chose qui est imputé, quelque chose qui est fictif. Quelque chose qui est simplement désigné sur une base qui lui sert de support. Et c'est le corps et l'esprit. Donc ce jeu n'a pas d'existence réelle. Il n'a qu'une existence nominale, imputée par l'esprit. Il apparaît, mais il n'existe pas. N'existe pas réellement, il n'existe que comme une simple désignation. Essayez de rester le plus longtemps possible dans cette absence d'un jeu existant véritablement. Pensez que tous les états de confusion, tous les états émotionnels que nous traversons, des états d'insatisfaction, de colère, viennent justement de cette identification à un jeu qui n'existe pas. Ce jeu qui n'est qu'une simple désignation sur les agrégats, sur le corps et l'esprit, apparaît, nous apparaît comme s'il n'était pas simplement une désignation. Il apparaît comme s'il existait par lui-même, sans dépendre de quoi que ce soit, sans dépendre des agrégats. Complètement indépendant, existant complètement de son propre côté. Et c'est ça donc, l'ignorance, c'est ça qui, cette forme d'esprit qui adhère, qui croit à l'existence d'un tel jeu. Et c'est ça que la sagesse de la vacuité essaye d'éliminer. On essaye d'éliminer cette ignorance qui tient le jeu comme existant en soi, en lui-même, par lui-même. Bien, nous allons nous arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette méditation ou par rapport à tout ce qu'on a dit ce matin ? Sur Zoom ? Non ? Personne ? Oui, tu veux bien prendre le micro, s'il te plaît ?
Oui, ma question est la suivante. C'est qui ce méditant qui cherchait son jeu ?
Comment ?
C'est qui ce méditant qui est à la recherche de son jeu ?
Ouais.
C'est qui ?
Bah, cherche. Cherche-le. Qui se prend pour ce méditant qui est à la recherche de son jeu ?
À votre avis, je vous demande un avis.
C'est une démarche personnelle. Il faut. Est-ce qu'il existe ce jeu, ce méditant ? Hein ? S'il existe, il existe où ? C'est sans arrêt. L'analyse, elle est là, justement. Personne d'autre peut la faire à votre place. Personne ne peut vous donner une réponse, même, à votre place. C'est vous qui devez trouver la réponse. Sinon, il n'y a rien qui se passe. C'est pas un dialogue, c'est pas le méditant, c'est un jeu simplement désigné. Pourquoi ? Parce qu'il y a un jeu qui pense « je médite ». Pourquoi il y a un jeu qui pense « je médite » ? À quoi il s'identifie, ce jeu ?
Il ne le pense pas, si tu permets. Il le fait. Oui. C'est différent.
Faire et penser, oui, mais là on est dans une analyse. On pense au jeu, hein. On est en train de penser. Quand on essaie de faire venir le jeu, quand on s'identifie en jeu, on pense qu'il y a un jeu qui existe. Le faire, c'est dans l'action après, c'est autre chose. C'est une action du corps ou de l'esprit de méditer ? Les deux. Mais est-ce que le corps médite ? Bah, le corps, il est assis, hein ? On peut pas dire qu'il médite. Est-ce que l'esprit médite ? Ça veut dire quoi, qu'il médite ? Qu'il pense ou qu'il pense pas, peut-être ?
Il va répondre, j'y pense.
Les prasangikas ne vous donnent aucune réponse. Ils n'affirment rien. On ne peut pas affirmer, trouver un jeu qui existe, un méditant qui existe, véritablement. Hein. Conventionnellement, bien sûr, il y a quelqu'un qui médite, c'est certain. On ne peut pas dire le contraire, vous êtes assis là, mais après, cette existence véritable d'un jeu qui médite, elle est introuvable. C'est du domaine du ressenti. c'est une absence qui apparaît. Hein ? Il y a une absence. Tant qu'il y a quelque chose de réel qui apparaît, vous n'avez pas réalisé la vacuité. Quand il y a quelque chose de réellement existant qui apparaît, vous n'avez pas réalisé la vacuité. Vous la réalisez à partir du moment où vous percevez directement que ce à quoi vous avez toujours cru exister a disparu. N'est pas là. Une simple absence. Et vous ne mettez rien d'autre à la place. Mais toujours, nous, on essaye de mettre quelque chose à la place. On met un méditant qui médite, je ne sais pas, c'est à l'infini, qui regarde celui qui médite. On essaye toujours de remettre ça. Parce que c'est notre fonctionnement, le fonctionnement de notre ignorance. Toute la démarche est là, et la méditation sur la vacuité, elle est là, justement. Donc, utiliser ces moments-là, justement, où il y a des émotions fortes, où un jeu apparaît fortement, parce que c'est là où il apparaît le plus, le jeu existant réellement, le jeu qui fait toutes sortes d'activités, qui est dans l'action, qui fait plein de choses, c'est pas un problème, il fait ses actions, il les fait, c'est conventionnel, tout va très bien. Mais celui qu'on essaye de réfuter, ce jeu, c'est le jeu qui n'existe pas, c'est le jeu que l'on a créé, que l'on a fabriqué. C'est un personnage complètement fictif. Hein.
Si vous permettez, qui en
le jeu le conventionnel. Le Bouddha, il parlait du jeu, hein, quand il enseignait le Bouddha. Il disait « je fais ci, je fais ça ». Il y a un jeu conventionnel qui existe. Ce jeu conventionnel, il n'est pas à réfuter. Il n'est pas à nier. Celui qui parle, celui qui fait des actions, celui qui fait plein de choses. Ce n'est pas un problème. Non, il faut bien faire la différence, hein, entre les deux. C'est important. Oui. Une autre question.
Alors, si j'ai bien compris, ce qu'il faut réfuter, c'est tout ce que l'esprit fabrique, en fait.
Auquel il croit, hein, intrinsèquement.
Auquel il croit, il s'accroche.
Réellement. Hein, ce à quoi il s'identifie. Hein.
OK.
Mais pas un jeu conventionnel qu'on a besoin de... Hein, si on fait une analyse ultime, là, et au terme de cette analyse ultime... Le jeu conventionnel, la conventionnalité, reste intacte. Hein, elle n'est pas éliminée. Sinon, on ne pourrait plus fonctionner. Après avoir réalisé la vacuité, on serait des zombies ou je ne sais pas quoi. On partirait sur une autre planète, on n'existerait plus. Ce n'est pas ça. La conventionnalité, elle n'est pas touchée dans une analyse ultime. On analyse ce jeu qui semble avoir une existence absolue, hein, une existence ultime. C'est un peu de la philosophie, mais enfin, on croit tous à cette existence absolue du jeu. Cet existant intrinsèque, absolu, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Donc c'est ça qu'on réfute. Mais la conventionnalité reste intacte. C'est ça qui est très fort. Là. Voilà, on ne détruit pas le jeu. On ne va pas devenir, hein, je ne sais pas, quelqu'un qui a plus de... Voilà. Qui ne croit plus rien à un jeu. Ça serait du nihilisme, oui, de tomber dans un truc, dans un état nihiliste où il n'y a plus rien. Une négation absolue, une négation totale. Alors là, c'est mauvais, là. Parce que vous niez le karma, vous niez toute la conventionnalité disparaît. Donc il faut bien, le plus important au départ, c'est de bien trouver le jeu qu'il faut réfuter. Le jeu à réfuter. Le jeu à nier, dont on nie l'existence véritable. C'est ça le point principal. Tant qu'on n'a pas trouvé ça, tant qu'on n'a pas compris, c'est même pas la peine de faire l'analyse, ça ne servira à rien.
Et donc, le jeu qui passe de vie en vie,
oui.
Ce jeu conventionnel, lui, il ne suit pas, lui.
On l'appelle le simple jeu, celui qui passe de vie en vie.
Simple jeu.
Oui, un jeu qui est désigné sur les agrégats et qui existe. Un jeu que tu désignes sur les agrégats. Je suis machin, je suis là. Ça passe de vie en vie. Le simple jeu.
Avec l'esprit, il est associé à l'esprit.
Oui, il est associé aux deux, corps-esprit. Il est associé à l'esprit, oui, bien sûr, puisque c'est l'esprit qui passe de vie en vie.
C'est l'esprit, on est bien d'accord.
Ouais, ouais, ouais. Mais de ton vivant, tu l'associes aussi à un corps, puisque oui. Tu as un corps aussi d'accord. En même temps. Et dans la vie prochaine, tu as un corps. Absolument. Et dans le rêve, quand tu rêves, tu as un corps.
Oui, non, mais c'est le jeu conventionnel. Donc tu dis que le
simple
jeu.
Celui-là existe.
Le jeu conventionnel. Quoi.
Qui existe, oui.
Et il passe celui-là.
Oui, c'est ça qui passe de vie en vie. D'après les Prasangikas. Hein. D'après eux, d'après ce que disent les Prasangikas. C'est ça qui passe de vie en vie. Il n'y a pas autre chose. Le simple jeu. Le jeu simplement désigné sous les agrégats que tu as quand tu passes de vie en vie. Dans ta prochaine vie, tu vas désigner, si tu n'as pas réalisé la vacuité, tu vas mettre un jeu sur les agrégats et voilà. Et ça, si. Après, c'est ce jeu simplement désigné sous les agrégats qui passe. Alors après.
Hein. Le karma aussi. Le karma oui, passe. Oui, aussi, tout.
Le karma, ben oui, le karma passe avec. Les prasangikas n'affirment rien. Hein. Mais la conventionnalité reste là, fonctionne. Difficile à comprendre la vue prasangika. Hein. C'est pas ça se comprend. Ça peut paraître contradictoire ou on se demande comment ça peut. Si quelque chose nous apparaît, c'est que ça existe, quoi, bon sang. c'est là où il y a le où est la difficulté de voir que ce qui nous apparaît n'existe pas tel que ça nous apparaît. La seule chose à comprendre, on pourrait la résumer à ça. Ça marche pas, je pense. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut le lever. Il y a une petite lumière verte.
Quand on veut être en paix, alors, c'est lequel jeu ?
Qu'est-ce que ça veut dire être en paix ?
Bah, être en sérénité.
Atteindre le nirvana ?
Je dirais pas ça, mais être en paix déjà avec soi-même. C'est quel jeu, alors ?
Celui qui veut être en paix. C'est un jeu conventionnel qui désire être en paix.
D'accord.
C'est un jeu simplement désigné sur les agrégats qui voudrait être en paix.
D'accord. L'autre jeu, alors, c'est quoi ?
L'autre jeu, celui qui n'existe pas, celui qu'on doit, c'est celui qui nous apparaît dans des situations un peu un moi solide. Très concret, très indépendant, très autonome, qui a l'impression de se suffire à lui-même, qui a l'impression d'exister tout seul, d'être auto-créé. C'est ça le jeu. Ouais. Qui apparaît dans une situation conflictuelle, par exemple, de peur. Hein, si tu me mets au bord d'un précipice et que le vide t'attire, tu vas sentir dans ta poitrine, quelque part, ou je ne sais pas, une existence, hein, un jeu réel. Et c'est ça qu'il faut trouver. Hein. C'est ça qu'il faut trouver en premier.
Ce serait
pas le jeu conventionnel ? Non, le jeu conventionnel, il est simplement désigné sur les agrégats. Oui. Mais les deux sont mêlés pour nous. Les deux sont mêlés. Les deux sont mélangés.
Oui. Est-ce que désigner quelque chose en disant, par exemple, c'est un stylo parce que il est fait de matière, parce que c'est commencer à déstructurer la dualité qu'on peut avoir par rapport à l'objet.
En disant parce que ?
Parce que, oui. Et juste pas en ne pas le considérant juste comme un objet.
Pourquoi c'est un stylo ?
Parce qu'il y a plein de causes et conditions qui ont fait que ça a été...
Nommé stylo. Donc c'est son existence conventionnelle. Hein ? Toutes les causes et conditions qui ont fait que, conventionnellement, tout le monde accepte, en langue française en tout cas, qu'en voyant tel objet, on dit « c'est un stylo ». Mais s'il y avait un étranger dans la pièce, et ce que je lui dis, sans regarder quoi que ce soit, tu peux me passer le stylo ? Il ne saurait pas de quoi je parle. Hein ? Stylo, quoi ? Donc, c'est quoi ? Il ne trouverait pas le stylo. Alors qu'il sait, connaît, il sait ce que c'est qu'un stylo. Donc le stylo n'existe, alors là ça va vous faire délirer, hein, mais bon, n'existe qu'à partir du moment où il est, où il est nommé. J'arrête là. Réfléchissez à ça. Hein. C'est ça que...
J'ai une petite question.
Oui.
Ah, oui, ouais, désolé. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Moi, quand je fais cet exercice de recherche du jeu, il y a un élément qui est constitutif et que j'arrive pas encore vraiment à me débarrasser, c'est en dépendance avec à tous les autres êtres qui m'entourent et pour qui je suis quelqu'un, en fait. Je suis un papa pour mes enfants, un participant
c'est
à
ça.
Un Zoom.
Oui.
Voilà. Oui. Et ça, j'ai pas de prise dessus, en fait, sur ce que les gens, comment les gens peuvent me voir ou me concevoir. Et voilà, j'arrive pas en fait à voir comment la vacuité dans cette perception en fait peut intervenir.
Il me semble
même quand je serai mort, on pourra éventuellement pendant quelques années se souvenir de moi. Et ce jeu-là en interdépendance, il existera toujours. En fait.
Oui, le jeu interdépendant existera toujours. Un jeu interdépendant, oui, qui dépend de causes et de conditions, existe, bien sûr. Ce jeu, oui, oui, oui. Mais justement, tu viens de le dire, justement. Quelqu'un te voit comme un papa, ton fils te voit comme un papa, un aide te voit comme un participant de Zoom. Donc, il n'y a pas de jeu. Ce jeu, la personne, l'individu ou la personne, en parlant je, personne, moi, tout ça, c'est la même chose. Hein, quand on parle de la personne, qui est la personne, hein, elle dépend uniquement du regard de l'autre, hein, en fait. Comment l'autre la conçoit. Donc c'est une simple conception, en fait. Hein. Une conception, une fabrication mentale qui dépend de causes et de conditions environnantes ou du jugement de quelqu'un d'autre. Voilà, il n'y a pas de jeu qui est intrinsèquement existant là-dedans. Non. Et toutes ces perceptions, finalement, elles fonctionnent. Hein. Dans une analyse conventionnelle, tout va bien. C'est à partir du moment où ça marche pas, c'est quand on cherche qui est cette personne, où est-elle, où elle se situe, qui est ce jeu qui nous apparaît comme... Après, il faut pas trop se demander comment les autres nous perçoivent. On ne sait pas, en fait, comment les autres nous perçoivent. C'est surtout nous, comment nous nous percevons, qui est important. C'est par là qu'il faut commencer. Hein. C'est le point de départ. Hein. C'est comment je me perçois. Comment moi je me perçois. Hein. Et on ne se perçoit pas comme dépendant de causes et de conditions en général. Hein. On se perçoit comme étant quelque chose de beaucoup plus que ça. Qu'une simple désignation sur des agrégats, tout ça. C'est comme ça qu'on existe. Ça, c'est vrai. C'est comme ça qu'on existe. Une interdépendance. Mais on se voit comme quelque chose de beaucoup plus solide que ça. Beaucoup plus fort, beaucoup plus présent, beaucoup plus... Voilà. Et c'est ce « je », justement, qui semble exister sans dépendre de causes et de conditions, sans dépendre de quoi que ce soit, qui est à réfuter. Mais pas la désignation.
Et comment dire la...
Vous n'avez pas faim ? J'ai faim. Qu'est-ce qui a faim ? Quand je dis « j'ai faim », moi
on va faire... Tout à l'heure, vous faisiez une différence entre le mental et la vacuité.
J'ai fait ça, moi. J'ai fait une différence entre le mental et la... Je me souviens pas. Hein. J'ai dit le mental et la vacuité. Ben, le mental, c'est un outil qui permet de réaliser la vacuité.
Oui, donc c'est libéré du mental, en fait.
C'est ce passe. On a besoin du mental.
La vacuité.
On en a besoin du mental. On ne peut pas se libérer du mental. La conscience mentale. Hein? La conscience mentale, c'est nécessaire. Elle fonctionne, elle fait partie de nos agrégats.
Donc la vacuité, ce n'est pas un lâcher-prise dans le sens ne pas être influencé par le mental.
Pas ça, non. Non, non, non. Ne pas être influencé par des constructions mentales erronées. Mais des constructions mentales justes, c'est très bien si elles t'influencent. Après, il ne faut pas se laisser influencer par des constructions mentales, des fabrications mentales complètement erronées, complètement fausses, disons, basées sur des erreurs de jugement.
En quoi est-ce différent de ne pas réfléchir d'une certaine manière?
C'est très différent.
Être dans le mental et être dans la vacuité.
Pour moi, être dans le mental, ça veut dire quoi être dans le mental? Ça veut dire réfléchir. Hein,
plus ou moins, oui.
Oui. Mais à un moment donné, où la réflexion, elle va jusqu'à un certain point, et là, elle ne va pas plus loin. Et quand ta réflexion t'a amené à un certain point où tu constates une absence, par exemple, d'existence en soi, tu restes dans cet état où le mental n'intervient pas. Donc le mental t'amène, si tu veux, à cet état-là, mais une fois que tu l'as atteint, tu laisses le mental.
Et justement, la vacuité, donc, c'est se laisser aller du mental.
Voilà, très bien, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. La vacuité, tu la vois quand ce mental est lâche.
Et c'est ça, en fait.
Oui. Sajipa kicho shime toja rira nije ni de genpadi sangye jintu minto e pirwaye jin la shepa shoye dam guru ratna mandala kam niryataya min. Bon, ben je vois qu'il y a beaucoup de questions sur Internet. C'est bien, hein, c'est comme ça qu'on avance, hein, en se posant des questions.